Radio Okapi. Journal présenté par Belinda Bossouma.
Bientôt la relance du programme de développement des 145 territoires, programme initié par le chef de l'État pour lutter contre la pauvreté et promouvoir le développement dans les 145 territoires du pays. La décision de sa relance ressort de la réunion du comité de conjoncture économique tenue hier à Kinshasa. Trêve humanitaire dans l'est de la RDC. Les États-Unis annoncent 2 semaines supplémentaires comme nouvelle opportunité pour la paix. Cependant, le notable du sud de Lubero dit déplorer le fait qu'aucune action humanitaire concrète n'a été rapportée durant les 2 semaines de la trêve finissante. Et puis, l'invité de ce matin, général Eddy Kapend. Commandant de la 22e région militaire, il a rencontré cette semaine les agences du système des Nations Unies opérationnelles dans le Grand Katanga. Au menu des échanges, la situation sécuritaire et l'épineuse question de la présence des militaires dans les sites miniers. Avant d'aller plus loin, parlons de ces tirs à balles réelles qui ont sémé la panique dans la nuit d'hier à aujourd'hui au quartier Ndendere, commune d'Ibanda à Bukavu. Un jeune homme d'environ 30 ans a été tué et d'autres personnes blessées, conduites à l'hôpital, rapporte le chef d'avenue qui livre l'information. Le ministre provincial de l'Intérieur du Sud Kivu, appuyé par les éléments de l'ordre, ont déclenché une opération de fouille pour dénicher les malfrats identifiés comme des jeunes à main armée. Madame, Messieurs, bonjour. Le gouvernement congolais décide de relancer le programme de développement des 145 territoires, PEDEL 145T, initié par le président de la République. Ce programme vise, je vous le rappelle, à lutter contre la pauvreté, les inégalités et à promouvoir le développement dans les 145 territoires du pays. C'est ce qui ressort de la réunion du comité de conjoncture économique tenue hier à la primature à Kinshasa. Autre décision prise à cette rencontre, la mise en place des mécanismes pour lutter contre la fraude minière et pétrolière en vue de maximiser les recettes de l'État, mais aussi réguler les dépenses publiques. Suivez le compte-rendu de cette réunion fait par le vice-premier ministre en charge de l'économie, Daniel Moukoko Samba.
Le plus important à retenir au cours de cette réunion, c'est la volonté de Son Excellence, Madame la Première Ministre, de relancer le plus rapidement possible certains projets phares du gouvernement, notamment le projet PEDEL 145 territoires, dont il est question de faire d'abord l'évaluation de ce qui a été fait au cours du mandat précédent et de solder les montants attendus par les agences de mise en œuvre pour clôturer définitivement le premier volet de ce programme. Évidemment, pour financer ce programme, le gouvernement a besoin de plus de recettes. C'est la raison pour laquelle, au cours de la réunion de ce jour, nous nous sommes appesantis sur la problématique de la fraude sur nos produits miniers. Cette pratique consiste à minorer la valeur des produits miniers qui sortent de notre territoire national. De la même manière, la question de la fraude sur les produits pétroliers. Les membres du comité ont donc envisagé des mesures pour juguler ces mauvaises pratiques de manière à accroître les recettes publiques dont le gouvernement a besoin pour exécuter les projets d'investissement. De la même manière, nous avons également examiné la question de la régulation des dépenses publiques de manière à ce que les dépenses les plus essentielles soient exécutées et que l'exécution des dépenses par le gouvernement ne vienne pas surcharger le marché de change, ce qui se traduit le plus souvent par la détérioration ou la dépréciation de la monnaie nationale.
Et puis, désormais, tout auteur des infractions liées à la construction illégale, l'occupation des caniveaux et la nuisance sonore sera passible du paiement des amendes qui vont jusqu'à l'équivalent de $500. Ceci découle d'une séance de travail mercredi entre le ministre de la Justice et le ministre délégué près le ministère de l'Urbanisme et Habitat en charge de la politique de la ville de Kinshasa. Le ministre délégué Didier Tengelito sollicite ainsi le concours du ministre d'État Constant Mutamba qui a la police judiciaire des parquet comme instrument de contrôle afin de l'accompagner dans la répression de ces infractions. En effet, dans le cadre de la ville solution, les deux ministres veulent que toute personne qui gère la chose publique au niveau de la territoriale solutionne les problèmes de la population à la base sans complaisance. Jeff Ngoy.
Selon le ministre de la Justice, les procédures pénales à suivre en cette matière consistent à ce que toute personne victime de ces infractions saisisse d'abord le bourgmestre de sa commune et informe le procureur de la République. Si le bourgmestre ne s'exécute pas, dit le ministre, il doit faire l'objet d'une poursuite par le parquet pour abstention coupable parce qu'il n'a pas exécuté les textes et lois de la République étant dans ses pouvoirs. Et son collègue en charge de la politique de la ville au gouvernement se lance dans la sensibilisation afin d'appliquer les lois sur les enjeux de non-respect des normes de gestion des déchets et nuisances sonores. Didier Tengelito parle ainsi de la peine et de servitude pénale par rapport à la violation des édits y afférents. D'autres peines prévues par la loi sont privatives des libertés de 6 mois à 5 ans. Le ministre rappelle l'observance de l'ordonnance loi du 31 mai 1975 qui réglemente les heures d'ouverture et fermeture des débits des boissons, à savoir de 17h à 22h du lundi au vendredi, de 17h à 23h pour le samedi, dimanche et jour férié de 17h à minuit.
Je vous le disais en titre, les États-Unis annoncent le renouvellement pour 2 autres semaines de la trêve humanitaire dans l'Est de la RDC, trêve qui expire aujourd'hui. Dans un communiqué signé mercredi, le gouvernement américain présente les 2 semaines supplémentaires comme une nouvelle opportunité pour la paix. En réaction, le notable du Sud, Lubero, plaide pour l'ouverture d'un couloir humanitaire entre ces entités et la partie nord du territoire de Rutshuru. Aucune action humanitaire concrète n'a été rapportée durant les 2 semaines de la trêve finissante, déplore d'autres acteurs. Bernard Nyangi.
Pendant les 2 premières semaines de cette trêve humanitaire, des centaines de familles déplacées sont retournées dans leur village, notamment dans la chefferie de Buito, fait remarquer la coordination de l'ONG locale Veille humanitaire œuvrant dans cette zone. Cependant, excepté quelques évaluations des besoins urgents de prise en charge médicale, aucune assistance humanitaire n'a accompagné ces retours des déplacés. Ce qui pousse Ezeka Nendou, notable et député provincial honoraire de Lubero, a plaidé en faveur de l'ouverture d'un couloir humanitaire dans la zone.
Plusieurs organisations humanitaires ont peur de travailler dans les zones sous contrôle du M23. Demandons à la même Maison-Blanche de dire aux éléments du M23 de se retirer dans certaines zones comme la commune de Kanyabayonga, Kaina, Kirumba, à créer un couloir humanitaire qui sera supervisé par la MONUSCO. On fait de permettre une assistance digne et sécurisée dans les 15 jours de prorogation.
Près de 80% des populations de la partie nord de la chefferie de Buito sont déjà retournées dans leur village occupé par les rebelles du 1-23, indique l'ONG locale Veille humanitaire. Un retour selon elle qui nécessite un accompagnement humanitaire. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Nord Kivu toujours, l'action d'animation pour le développement des paysans lance un SOS quant à la situation des déplacés se trouvant dans différents sites du territoire de Nyiragongo. Selon le coordonnateur de cette organisation locale, nombreux vivent déjà depuis plusieurs mois sans assistance et les conditions sanitaires sont de plus en plus précaires. Étienne Bosenima-Bamwe appelle à une intervention urgente des autorités au niveau provincial que national. Il est au micro de Bernard Nyangi.
Plus de 30% des déplacés ne sont pas pris en charge par le gouvernement de la RDC et ses partenaires sur le plan d'abri, alimentation, l'eau, médicaments et autres. Les enfants pendant cette période ne sont pas encadrés dans le site. Quelques sites n'ont pas de douche et toilettes. Le site de Muni Gude, Tana Buhombo, catholique Kiher. Depuis l'arrivée des déplacés de site de Munigi, n'ont jamais bénéficié aucune assistance ni aide humanitaire de vivre et non vivre. Même les sites qui sont pris en charge, un bon nombre de déplacés sont oubliés, soit à 52%. Nous lançons un appel au ministère des Affaires sociales et Actions humanitaires et ses partenaires nationaux et internationaux déporter leur assistance à tous pour sauver leur vie.
L'actualité, c'est aussi cette rencontre mardi à Lubumbashi entre le commandant de la 22e région militaire et les agences du système des Nations Unies qui sont opérationnelles dans le Grand Katanga. À cette occasion, plusieurs questions d'ordre sécuritaire ont été évoquées. C'est notamment celles relatives aux cas de braquage et autres crimes qui sont enregistrés à travers les grandes agglomérations de l'ancien Katanga. Pour le numéro 1 de la 22e région militaire, l'armée fournit beaucoup d'efforts pour y mettre fin. Le général Eddy Kapende est au micro.
C'est un problème de criminalité urbaine. C'est vrai que ça nous dérange et tous les jours nous faisons un effort pour pouvoir démanteler tous ces réseaux des inciviques, des gens qui cherchent toujours à perpétrer les crimes parmi les populations. C'est une préoccupation pour nous. Nous y travaillons. Dans nos cachots, c'est plein de tous ces criminels. Dans nos juridictions, au tribunal civil et militaire, tous ceux qui sont attrapés dans ces conditions sont sévèrement punis. Ils agissent parfois de manière imprévue et par surprise. Nous y travaillons sincèrement et à travers toute notre juridiction pour pouvoir mettre fin à ça. C'est pas facile. Vous savez, plus les villes grandissent, plus la pauvreté est aussi importante, plus tous ces enfants de la rue qui grandissent sont susceptibles d'être recrutés dans telle et telle voie de fait. Et donc, l'insécurité urbaine existe. Nous nous attelons jour et nuit pour pouvoir y mettre fin.
Sud Kivu, la route nationale numéro 30, tronçon situé entre la ville congolaise d'Uvira et Bujumbura, la capitale du Burundi, redevient fréquentable après la décrue des eaux du marais Nyangara. Le long du lac Tanganyika, le passage est déjà ouvert aux petits véhicules en attendant la fin des travaux en cours. L'entreprise qui exécute les travaux se sert du sable pour remblayer la partie déjà dégagée par les eaux et permettre ainsi la traversée des camions de grand tonnage. Le président de la Fédération des entreprises du Congo, FEC Uvira, souhaite que les mêmes efforts soient déployés sur le tronçon Luanga en vue d'ouvrir la voie aux opérateurs économiques qui fréquentent l'axe Uvira-Fizi. La route Luanga, pour laquelle plaide Zembe Zembe de la FEC Uvira, est complètement couverte par la montée des eaux du lac Tanganyika. On écoute le président de la FEC Uvira.
Il y a seulement un petit souci qui n'ont pas encore fini au niveau de la DGM, mais jusqu'à la DGDA où il y avait vraiment une grande quantité d'eau, et il y a déjà une solution, les petits véhicules commencent à passer sans problème. Seulement, les problèmes persistent toujours du côté Fizi, là où Luanga est devenu impraticable. Il n'y a pas une semaine qu'il y a encore un grand véhicule poids lourd qui est encore tombé dans le lac Tanganyika parce que la route n'est pas visible et les chauffeurs étaient noyés. Et donc, nous continuons toujours à décrier surtout la partie physique où il n'y a aucun effort qui est ménagé pour que les travaux y commencent. Nous remarquons que d'autres commerçants, par crainte de perdre les engins, les marchandises des transporteurs, sont en train d'aller par le bateau à Mani qui peut être à mesure d'embarquer 10, 15 gros véhicules et ils sont en train d'aller, imaginez, jusqu'à Kalemi dans la province de Tanganyika pour retourner au sud Kivu et prendre l'élan de Maniema ou prendre l'élan de Missisi.
Merci de nous écouter à Mbandaka. Ici, nous apprenons qu'une quinzaine des magasins, boutiques et autres dépôts de carburant sont partis en fumée dans un important incendie. C'était mercredi à côté du parc des jeunes. Les propriétaires inconsolables ont enregistré des pertes estimées à plusieurs milliers de dollars américains. L'origine du feu n'est toujours pas connue. La population s'indigne du manque de véhicules anti-incendie dans une ville qui abrite environ 1,5 million d'habitants. Dans l'actualité aussi, cette première visite qu'a effectuée hier le ministre du Commerce extérieur au secrétariat général de son ministère à Kinshasa, il dit avoir épinglé notamment le manque de charrois automobiles pour le personnel, l'insuffisance des locaux et l'absence de paie pour les 4000 agents sur le total de 11000 que compte son ministère. Selon Julien Paloukou, son objectif c'est aussi de s'imprégner des défis auxquels le gouvernement va s'attaquer pour faire du secteur du commerce extérieur le levier de la croissance économique de la RDC. Julien Paloukou dans ses propos recueillis par Alain Rong.
Je suis venu échanger avec les 12 directions du ministère du Commerce extérieur, représentées par leur directeur, coiffé par le secrétaire général, pour que finalement nous puissions échanger sur un certain nombre d'éléments importants, parce que c'est ici où on a la mémoire de tous les accords bilatéraux, multilatéraux avec les pays frontaliers. C'est ici où on a la stratégie de promotion des exportations, comment on doit la mettre en œuvre. C'est ici où on a identifié déjà les marchés pour les produits congolais qui sont exportables. C'est ici où on a des grandes idées qui peuvent nous amener à avoir des attachés commerciaux dans toutes les ambassades pour nous permettre de négocier les marchés marché à travers le monde. C'est ici en fait où s'est définie toute la politique que le président de la République a voulu imprimer au sein du ministère du Commerce extérieur pour que finalement ce ministère devienne le levier de la croissance économique. Et vous l'avez suivi depuis un certain temps, il y a les marchés américains à travers la GOA, il y a les marchés chinois, il y a les marchés européens, il y a la ZLECAF, c'est-à-dire la zone de libre-échange continentale africaine.
Actualité internationale.
Le Niger et la Turquie veulent renforcer leur coopération. Une importante délégation turque était à Niamey mercredi 17 juillet. Selon les médias locaux, les échanges ont par exemple concerné les domaines de la défense, du pétrole, de l'éducation et de la santé. Une visite alors que l'organisation CNSP continue de reconfigurer ses partenariats près d'un an après la prise du pouvoir par les militaires le 26 juillet 2023.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons le commandant de la 22e région militaire, le général Eddy Kapend, dans un entretien accordé à Radio Kapi en marge de sa rencontre mardi avec les agences du système de l'ONU. Il est revenu sur la situation sécuritaire et l'épineuse question de la présence des militaires dans les sites miniers. Le général Eddy Kapend est avec Jean Gandou.
Bonjour, général Eddy Kapend, bonjour.
Bonjour.
Il y a quelque temps, on a vu beaucoup de militaires déployés ça et là à travers la ville. Y avait-il un problème particulier ou c'est un déploiement de routine?
Les soldats sont là pour protéger le pays. À chaque fois que la menace est signalée d'ici là, et les soldats se mettent en ordre opérationnel. Et donc, les voir circuler ou les voir passer, il n'y a rien d'extraordinaire.
Il y a eu des barrières érigées ça et là. Il y a des gens qui se sont plaints, également qui ont parlé des tracasseries et tout. Qu'est-ce qui a pu bien justifier la présence de ces barrières?
La barrière, c'est une mesure ponctuelle qu'on installe dans les dispositifs pour pouvoir donner sécurité et protéger tout le monde. Lorsque nous avons des menaces d'infiltration dehors la loi, lorsque nous avons la menace de commercialisation ou de déplacement des armes et des effets militaires, spontanément nous prenons des mesures pour pouvoir mettre fin à ça. Et c'est pour cela que nous avons placé pendant une certaine période où la menace était pertinente, nous avons été obligés de décider de restreindre justement la circulation en mettant des roadblocks. Ça nous a permis de démanteler beaucoup de réseaux. Au fur et à mesure que les choses se calment et que nous avons l'assurance de maîtriser la situation, il est naturel que nous devons soit les enlever, soit les disposer de manière ponctuelle. S'il est important de les placer sur telle voie, on les fait. Le lendemain, on peut ne pas le faire là-bas parce que si la barrière devient permanente, elle devient inutile. Les criminels, ceux qui y a barrière sur telle voie, de telle heure à telle heure, il ne passera pas. Il attendra passer bas où il n'y en a pas. S'il n'y a pas de menace, s'il n'y a pas circulation de toutes ces mauvaises choses, il n'y aurait pas raison de mettre des barrières. Donc si la population participe à rechercher la sécurité avec la police, avec l'armée, nous n'aurons pas raison de placer toutes ces barrières. Nous punissons les soldats qui débordent. C'est d'ailleurs pour cette raison que je prends rapidement des mesures pour pouvoir les alléger, si pas les supprimer provisoirement. Nous allons toujours récupérer ce type de tactique. Le moment venu, si jamais la raison nous intéressait, nous avons protégé des gens par ces barrières. Mieux vaut être bloqué sur la barrière, être contrôler, et vous allez chez vous en sécurité jusqu'à demain, plutôt que ne pas trouver une barrière de contrôle qui empêche la menace. Quand vous arrivez chez vous, peut-être en descendant de votre véhicule, quelqu'un peut vous braquer derrière la nuque pour vous dire, descendez. Alors que si vous avez fait 2 minutes sur la route, on vous procure la sécurité, la barrière était aussi importante que ça.
Le réseau que vous avez démantelé était constitué de quel type de personnes?
Il y a des civils, il y a aussi parfois des anciens militaires, et même certains militaires qui sont encore actifs, qui pour des raisons idéologiques et politiques, arrivent à trahir. Mais chaque fois que nous mettons la main dessus, la sanction est grave sur les militaires et sur les civils qui sont pris aussi. Il y a des gens qui se recrutent pour aller rejoindre la rébellion et qui pensent qu'ils peuvent prendre les armes de tel point pour les amener dans telle forêt, former tel type de personnes. Beaucoup sont arrêtés. Nous avons sérieusement travaillé et je crois que nous avons réussi.
Qu'en est-il de la présence des militaires dans les sites miniers? Vous avez longtemps demandé qu'ils quittent, mais ils ne quittent toujours pas et ils se renforcent davantage.
Mon souci à moi, c'est de chercher un cadre de discussion avec les miniers, avec l'autorité politique administrative, avec les agences, avec les droits de l'homme. Mais pour qu'on discute pourquoi il y a des militaires dans des mines. Souvent, au loin, on accuse la présence des soldats dans les mines. Mais les soldats, c'est qui? C'est un protecteur, c'est une sentinelle. L'espace de mine, ce que la population ne sait pas, n'est pas que pour les cuivres. Nous avons des matières qui sont interdites ni à l'exploitation, ni à la commercialisation. Ces minerais-là, qui sont des minerais stratégiques, ne peuvent être contrôlés que par les militaires. Et c'est en brousse. Quand vous trouvez un soldat qui est en brousse à Chinko ou à Kambov, ou je ne sais pas moi, dans tel coin de notre province, tout de suite,
sites, vous dites, ils sont dans la mine. Mais ils sont dans la mine, justement, pour protéger ces sites qui sont stratégiques et qu'on ne peut pas exploiter.
Mais il y en a qui exploitent les minéraux, moi, en général.
D'une part. D'autre part, vous avez des matières et des matériels d'explosion qu'on utilise pour casser dans les mines. Vous savez, les roches, on ne les casse pas avec une houe. C'est avec des explosifs. Et les explosifs sont du domaine de la défense. Il n'y a que les militaires qui doivent surveiller l'utilisation de ces explosifs que les miniers utilisent. Et voilà pourquoi, de temps en temps, la GECAMINE demande par écrit. Il y a KCC, qui est une société de mines, qui demande les militaires. Il y a Tenke Fungurume qui demande. Il y a plusieurs sociétés qui sont officiellement protégées par les forces de défense. Et tout ça, ce sont des militaires de la 22e. Moi, j'ai des instructions de ma hiérarchie de dégager tous les militaires. Et je l'ai fait. J'ai dégagé plus de 860 soldats que je viens de réorganiser en un bataillon de combat qui sont disponibles maintenant. Mais pour d'autres raisons, les soldats sont encore là. Nous sommes obligés de continuer à les sensibiliser, à les retirer. Pour ceux qui sont de manière irrégulière, c'est interdit. Ils sont de manière régulière. Ils doivent continuer à travailler.
Mon général est décapé, je vous dis merci.
Merci.
Le commandant de la 22e région militaire répondait aux questions de Jean Gandou. Par ici prend fin ce journal supervisé par Pele Kipela Mondo. Mimi Kindo à la mise en onde. Merci de rester branché sur la fréquence de la paix.